Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les Français pensent que, les Français disent que, pas un politique n'échappe aujourd'hui à ce tic de langage dès lors qu'il s'exprime sur un média national. À droite comme à gauche, on revendique de comprendre ce que pense vraiment le pays profond, le plus souvent en assortissant sa démonstration d'une anecdote bien sentie, du genre « je discutais l'autre jour sur un marché avec une mère de famille et figurez-vous que… » etc. etc. Alors évidemment, personne n'est dupe. Le leader qui dialogue directement avec son peuple est une figure de propagande sans lien avec la réalité de la représentation politique. Pour comprendre les aspirations de la société, il y a des intermédiaires, des corps intermédiaires, les médias, c'était notre sujet hier, les partis politiques, les syndicats, les associations, les mouvements de jeunesse, des organisations qui ont notamment pour objet d'être des caisses de résonance des préoccupations du pays et des tremplins pour faire émerger de nouvelles têtes. Problème aujourd'hui, ces corps intermédiaires sont eux aussi devenus inaudibles, laissant aux seuls instituts de sondage la mesure approximative de l'état de l'opinion. Alors partis, syndicats, associations, où sont passés les corps intermédiaires ? C'est la question que nous allons poser ce soir à quatre invités. Rina Rajaonari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, présidente depuis 2015. La JOC, c'est une association de garçons et de filles issues de milieux populaires et ensemble, ils agissent pour changer ce qui ne va pas autour d'eux. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur votre site internet. C'est une association qui regroupe une dizaine de milliers de jeunes. Pour discuter avec vous, Cindy Léoni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Vous y siégez depuis l'an dernier en tant que personnalité qualifiée. Le CESE, là aussi je suis allé sur le site, une force de proposition de la société civile organisée. Vous avez par ailleurs été présidente de SOS Racisme de 2012 à 2014. Notre troisième invité, Pascal Aubert, bonsoir.
Bonsoir.
Coordinateur du collectif Pouvoir d'agir, qui est un réseau d'associations et de personnes engagées dans la lutte contre l'exclusion sociale et politique. Vous organisez le week-end prochain, vendredi et samedi, vos sixièmes rencontres à Saint-Denis, des journées de musculation citoyenne. J'espère que vous aurez l'occasion de nous en dire un petit peu plus. Ouais. Sur ce sujet. Et puis quatrième et dernière invitée, Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous vous intéressez notamment à la sociologie des organisations politiques, à l'action publique locale. Frédéric Savicky, tiens, je vais profiter d'avoir un prof dans ce studio pour vous demander une première approche, en tout cas, de l'utilité des corps intermédiaires en démocratie. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, que ce sont des interlocuteurs absolument indispensables à tout démocratie?
Alors c'est bizarre parce qu'il faut quand même rappeler qu'historiquement et en particulier en France, les corps intermédiaires, d'ailleurs le terme de corps renvoie à l'histoire de l'Ancien Régime, étaient perçus très négativement parce qu'il y a une loi qui est la loi Le Chapelier qui avait été adoptée sous la Révolution française et qui interdisait précisément l'existence légale, la reconnaissance de ces corps intermédiaires qui étaient venus comme des porte-parole de groupes d'intérêt et des diviseurs, là où seuls les élus, légitimement représentants du peuple, pouvaient s'exprimer au nom de l'intérêt général. Alors évidemment, ce passé est lointain. Il en reste toujours un peu une suspicion à l'égard des corps intermédiaires qui sont vus en quelque sorte comme, au fond, des défenseurs d'intérêts particuliers, là où les partis, les représentants politiques sont porteurs de l'intérêt général. En fait, c'est un vieux problème français, mais dans beaucoup d'autres démocraties, on assume parfaitement, effectivement, que la démocratie ne se réduit pas simplement, effectivement, à l'acte de voter, à cette relation singulière des électeurs avec les élus. Il y a même un grand penseur politique français qui s'appelle Tocqueville, qui a étudié la démocratie en Amérique et qui a diagnostiqué le fait que la vitalité de la démocratie américaine ne s'expliquait pas par simplement ses institutions ou le fait que les représentants y étaient élus, mais bien par le fait qu'il y avait une vie associative particulièrement riche et particulièrement dense. Et je pense qu'effectivement, Tocqueville avait très largement raison et que ça participe à la fois à l'exercice du pouvoir, mais surtout du contre-pouvoir, de ce que Pierre-François Vallon appelle la contre-démocratie, mais aussi à la fabrique même des opinions. Hein. Les syndicats, les associations, pendant très très longtemps, ont été des relais indispensables pour ce que les citoyens se forgent des idées politiques sur la meilleure façon d'agir et les causes qu'il fallait défendre en priorité.
Alors, parce que nous avons des représentants de ces corps intermédiaires, alors pas des représentants officiels, hein, puis de manière on ne pouvait pas avoir un plateau absolument exhaustif sur ce sujet, mais par exemple, vous qui présidez la JOC, Reina Hadjaounari, est-ce que vous vous reconnaissez dans les fonctions qu'a détaillées Frédéric Savicky, qui serait celle donc de participer à la vitalité démocratique? Alors, en faisant quoi? En faisant remonter ce qui vient de la base vers le haut, en faisant redescendre aussi peut-être une forme de pédagogie des décisions politiques, en étant un contre-pouvoir, parce qu'il y a un petit peu de tout ça pour vous.
Alors effectivement, la JOC, on est un mouvement d'éducation populaire, donc en fait, on rejoint énormément de jeunes des quartiers populaires, et dans notre manière de faire en JOC, tous les grands combats qu'on mène, en fait, partent vraiment de la réalité de vie des gens. Donc, à notre habitude, par exemple, là, cette année, on travaille sur la thématique du travail digne. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la rencontre des personnes dans les rues. On va à la rencontre des jeunes des 13-30 ans dans leur lieu de vie pour leur donner la parole. Et seulement à partir de des résultats de ces enquêtes-là, on va créer des propositions qui vont être relayées, qui vont être transmises à nos élus, à nos politique. Donc, par exemple, le 15 avril 2017, là, on va réunir 15 000 jeunes privés d'emploi, notamment pour qu'eux, ils puissent témoigner de leur vie et créer des propositions pour améliorer leurs conditions de vie. Le but, c'est que pendant cette journée-là, ils rencontrent à la fois du coup, d'autres corps intermédiaires, donc des associations, des syndicats, mais aussi les politiques qui vont nous gouverner le lendemain, parce que c'est quand même une semaine avant les élections, pour entendre ces revendications du peuple.
Alors, on verra justement dans la suite de la discussion si vous avez, à travers votre expérience, le sentiment que ces revendications-là, quand vous les transmettez aux dirigeants politiques, elles sont entendues, elles sont prises en compte, ou bien si c'est le contraire. Je poursuis mon tour de table. Pascal Aubert, toujours sur ce rôle des intermédiaires en démocratie. Vous êtes un militant de longue date. Vous disiez, en dehors de ce studio, ça fait une quarantaine d'années en gros que je milite en permanence.
Oui, alors il faut bien qu'il y ait un avantage à vieillir, c'est un de ceux-là, c'est d'avoir un peu de recul. Donc effectivement, moi j'ai plus de 55 ans, j'ai commencé tôt dans les mouvements de jeunesse assez énervés dans les années 70.
C'était quoi par exemple les mouvements
de
jeunesse énervés?
Moi j'étais plutôt trotskard, voilà, j'étais de ce côté-là, donc très très bolchevique au tout début. Je suis guéri, pour le coup. Mais peut-être que j'y reviendrai. D'ailleurs, je pense que ça fait partie c'est une partie du problème, justement, le bolchevisme, l'avant-garde éclairée, l'élitisme, tout ça. C'est peut-être ça qui est en cause. Et donc, ce recul-là, moi, ça me fait apparaître deux choses. C'est quand je me rappelle dans les années 70, en région parisienne, quand j'ai commencé à militer, j'étais environné d'endroits où on vivait du collectif, qui était de nature très différente, qui était animée alors principalement par le PC et l'Église catholique pour l'endroit où j'étais, moi, à Villers-le-Bel. Et que ça soit dans les loisirs, dans la culture, dans la revendication, dans l'organisation de quartier, il y avait des myriades d'endroits où on avait l'expérience, on vivait l'expérience concrète du collectif, de l'action collective avec des voisins, dans des choses plus ou moins structurées, mais il y avait vraiment de manière omniprésente. Alors c'est pas que c'était très démocratique, c'est pas que c'était génial, moi j'ai pas de nostalgie de ça, mais je pense qu'il y avait alors je me tourne vers vous, mais il y avait tous les ans des centaines de milliers de personnes qui avaient cette expérience concrète du collectif sur plein de choses. Et je pense que l'effondrement des corps intermédiaires qu'on voit, syndicats, partis, grandes associations, si on regarde leurs effectifs, leurs adhérents, ce qu'ils animent concrètement, eh ben ça fait disparaître ces endroits où précédemment les gens se retrouvaient en groupe. Et donc, il y a une première fonction des corps intermédiaires qui est importante, c'est des lieux de débat, de confrontation d'idées, des filtres par rapport à simplement la réaction émotive par rapport à un discours ou par rapport à une parole. Et je pense que ça s'est complètement écroulé. Et puis je vois un signe qui m'encourage à réserver pour tout à l'heure.
Voilà, exactement. Suite. Ne dites pas tout tout de suite, Pascal voilà. Aubert. Puis je voudrais en plus achever mon premier tour de table avec Cindy Léoni. Est-ce que vous partagez d'ailleurs, tiens, le diagnostic que vient de faire Pascal Aubert, Cindy Léoni, celui d'un effondrement des corps intermédiaires? Vous qui siégez en tant que personnalité qualifiée au CESE, je rappelle le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, on pourrait dire que c'est le corps intermédiaire des corps intermédiaires, puisque c'est ici que on peut retrouver justement des syndicalistes, des membres d'associations. Est-ce que vous avez le même diagnostic?
Oui, ben, j'ai cette chance de voir à l'œuvre la réunion de ces corps intermédiaires toutes les semaines qui se réunissent pour travailler dans des sections sur des sujets différents. Moi-même, j'appartiens à la section des affaires européennes internationales. D'autres travaillent sur l'économie, d'autres encore sur les questions d'environnement. Et je ne peux que dire le travail efficace qui y est mené. Tout en soulevant une chose, c'est comment à un moment donné ces corps intermédiaires peuvent se réunir, se retrouver avec toutes leurs différences et leurs oppositions. Il y a le groupe des entreprises qui rejoint des syndicats de salariés, il y a le groupe des associations et des personnalités qualifiées au milieu de tout ça, et de se rendre compte finalement que régulièrement des avis sont menés par ce Conseil économique, social et environnemental et ne donnent pas lieu à des prises en considération de la part de la représentation politique.
Est-ce que dans les discussions entre les différents membres, cette inquiétude ou en tout cas ce constat d'un manque peut-être d'assises populaires de la part d'associations et de syndicats, c'est quelque chose qui ressort dans vos discussions, Sylvie Loé.
Je veux quand même souligner une chose, c'est qu'il y a quand même une évolution positive en la matière, c'est qu'aujourd'hui le CESE fait moins appel à ce qu'on appelle de l'autosaisine, c'est-à-dire à décréter soi-même les sujets sur lesquels il travaille et davantage à des saisines gouvernementales, et j'y vois là justement le fait que les corps intermédiaires demeurent un élément important de la discussion sur les grands enjeux de ce pays. Et quand on voit la façon dont le débat se porte, c'est aussi le lieu de l'apaisement, ce Conseil économique, social et environnemental. C'est l'endroit où on prend le temps de discuter les uns et les autres en fonction de ce que l'on représente. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'il ne faut pas confondre aujourd'hui la difficulté que les associations, par exemple, ont à recruter des militants de terrain et ce qu'elles continuent de représenter par ailleurs. Et je crois que plutôt que de disparition des corps intermédiaires, on peut essayer de se pencher sur la question de leur mutation et de leur transformation. Et je pense que l'aspect du changement numérique doit être pris en considération sur ce que l'animation des corps intermédiaires aujourd'hui dans notre pays.
Frédéric Savicky.
Oui, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la mutation plutôt que la disparition. Je pense qu'il ne faut pas trop noircir le tableau. Alors c'est vrai que les modes d'organisation, le fait que les militants aujourd'hui sont peut-être moins nombreux, militants bénévoles, que des professionnels, c'est un fait. Mais ces associations, elles ont profondément, dans certains cas, changé de nature, de fonction.
Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire si on parle des syndicats, 8% de syndicats. En France, si on parle des partis politiques, il y a quand même une vraie désaffection du nombre de militants. Par contre, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de bénévoles qui sont dans les associations.
Oui, mais il y a quand même un certain nombre de transformations qui sont un peu, on va dire, assez convergentes dans les partis, les syndicats et les associations, qui tiennent au fait que les associations se sont professionnalisées, tout comme les syndicats, tout comme les partis politiques. Ça veut dire quoi, professionnaliser? C'est pas un vilain mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, dans les associations, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui ont des responsabilités qui en font quasiment des services publics. Des associations qui s'occupent des gosses dans les quartiers, elles reçoivent pour ça des subventions importantes, des associations qui s'occupent des pauvres, des sans-logis, elles ne fonctionnent pas simplement sur du bénévolat, elles fonctionnent aussi sur des subventions parce qu'elles rendent des services à la collectivité et à l'État qui, en échange, effectivement, attend de ces associations des performances et donc, effectivement, des contraintes gestionnaires. Pour les syndicats, c'est pareil. Les syndicats, c'est des organismes qui revendiquent, qui protestent, mais c'est aussi des organismes qui gèrent des relations sociales, qui gèrent des institutions, les caisses de chômage, la sécurité sociale, etc. Et pour les partis politiques, les partis politiques, c'est des militants, mais c'est aussi des organismes qui recrutent des élus, qui vont devoir gérer des collectivités et qui, du coup, évidemment, promeuvent des gens qui ont des savoir-faire, des compétences des compétences techniques. Et donc, c'est le paradoxe, si vous voulez, je résume très rapidement, c'est que la montée en puissance de ces nouvelles fonctions remplies par les syndicats, les partis et les associations les ont profondément transformées et ont effectivement mis plutôt l'accent sur leurs activités de gestion que sur les activités de protestation et de représentation. Et ça, c'est un vrai souci qui, du coup, pose la question de la légitimité de ces différentes instances à porter des paroles et des revendications.
Alors, je voudrais vous entendre, en effet, sur cette question-là de la professionnalisation et de l'impact que ça peut avoir sur la représentativité qu'ont ces différents corps intermédiaires. Rina Rajanouari, Pascal Aubert et Cindy Léoni, je commence peut-être par la présidente de la JOC. Est-ce que vous sentez d'abord cette injonction à devoir être performant aujourd'hui? C'est-à-dire, vous avez aussi des subventions qui et on vous demande que ce soit quelque chose avec, une forme de donnant-donnant, quoi. Il faut que ça soit entre guillemets rentable.
Oui, je pense qu'il faut pas se le cacher aujourd'hui, hein, partout où on est, lorsqu'on rencontre une association, la première chose qu'on dit, c'est qu'il y a une baisse de subvention et donc aujourd'hui, on peut être tenté par remplir finalement les cases qu'il faut pour toucher les subventions, pour faire tourner la boutique. Alors que non, au contraire, je pense qu'il y a encore des associations qui prônent quand même cette valeur de porter la parole de la société.
Mais ça peut se manifester. Comment ces demandes que vous évoquez, c'est-à-dire on dit ouais bah ce serait bien que vous vous intéressiez en particulier à ce sujet-là parce qu'on a besoin de votre expertise. C'est plus insidieux, c'est comment?
Disons qu'avec le temps, effectivement, aujourd'hui, on demande de plus en plus aux associations d'être performants, comme vous dites, d'être des spécialistes pour pouvoir agir sur le terrain. Or, je pense qu'il faut redire aussi que les citoyens, ils ont envie de bouger. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 6 personnes sur 10 qui sont prêts à se bouger pour une cause qu'ils veulent défendre. Et ça, dans ces 6 personnes-là, et ben, en fait, c'est des personnes lambda, comme vous et moi, qui ont juste envie de trouver un lieu de parole, trouver un lieu où ils peuvent s'indigner avec d'autres, rencontrer d'autres pour porter leurs revendications. Et je pense que l'État a à entendre ça aussi, ne pas attendre des associations qu'ils pallient au manque des services publics, mais au contraire, laisser vraiment une vraie place à chaque citoyen, laisser donner une vraie place à chaque jeune, à chaque adulte qui a envie d'agir, tout simplement avec ce qu'ils sont et pas avec des personnes qui sont plutôt professionnalisées, comme vous dites, ou des élites aujourd'hui dans le monde associatif, quoi.
Quand on entre dans le monde des associations, Pascal Aubert, aujourd'hui, c'est bien si on a, par exemple, de bonnes connaissances, voire un diplôme en gestion. C'est ce qui est peut-être davantage recherché que d'autres compétences. Est-ce que c'est une évolution, là aussi, que vous avez vue à l'œuvre au cours de ces dernières années?
Je confirme complètement ce que disait Frédéric Savicky. On a, et cette question de la professionnalisation, elle est très à l'œuvre dans les syndicats, dans les partis et dans le monde associatif. Enfin, je ne vais pas redire ce que vous avez dit très bien. Et ça, ça a une conséquence. À mon avis, c'est une des causes en partie de la désaffection de la base. C'est que quand on technicise les questions, eh ben les militants, ils ont de moins en moins leur place. Ils sont de plus en plus relégués à des masses de manœuvres qui deviennent, pour le coup, de moins en moins massives. Et ça spécialise. Enfin, il y a une espèce de spirale là, qui renforce ce phénomène-là. Et ça a une deuxième caractéristique, c'est quand on recrute des gens sur leurs compétences universitaires, sur leurs compétences techniques, eh bien forcément, on fait monter le niveau sociologique de recrutement. Dans un pays où l'école n'est pas démocratisée, et je vous fais pas l'article là-dessus, et où en gros, les milieux populaires n'accèdent que très peu à des formations universitaires de haut niveau, quand les partis, les syndicats et les associations ne recrutent plus que sur des bases techniques, eh bien, il y a un éloignement sociologique qui se fait progressivement, et moi je l'ai vu sur 30 ans, entre les dirigeants de ces organisations-là et leur supposée base. Et ce qu'on observe, nous, alors le collectif Pouvoir d'agir, nous on s'intéresse au développement du pouvoir d'agir de ceux qui ne l'ont pas. Donc plutôt des milieux populaires, des gens qui sont en galère, etc. Et qui effectivement ne sont plus représentés par personne. On a une conviction. C'est la phrase de, alors je sais pas, c'est Gandhi ou Mandela, mais qui nous semble très juste. Et je pense que les deux l'ont dit. Ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Quand il y a une trop grande distance de réalité de vie entre les gens qui prennent les décisions et les gens au nom desquels ils prennent les décisions, eh ben, on finit par trahir objectivement. Ça ne dit rien sur les gens. Moi, j'ai plein de copains qui sont des dirigeants politiques de mon ancienne période. Individuellement, c'est des gens très bien. Par contre, objectivement, ils ne sont plus représentants d'un monde qui n'est pas leur et qui n'est plus nulle part dans ces organisations-là.
Donc c'est une crise de la représentation qui ne concerne pas que les partis politiques, Cindy Léoni. Le CESE, est-ce que c'est une instance qui vous paraît être représentative aujourd'hui? Est-ce que quand on regarde le profil de ces différents membres, ça répond en partie à cette question, ou bien est-ce qu'on est finalement avec ce que nous décrivait à l'instant Pascal Aubert, c'est-à-dire des professionnels finalement qui peuvent avoir bien sûr leur légitimité à être consultés, mais
je crois que la composition même du CESE enfin, je veux dire, parle d'elle-même, c'est 233 conseillers qui sont issus d'univers différents, de territoires différents, qui ont des parcours différents, et mis ensemble, c'est une petite France qu'on retrouve dans l'hémicycle. Maintenant, est-ce qu'elle
c'est
est
pas forcément
représentative,
le nombre qui fait la représentativité, si on regarde l'Assemblée nationale.
Ce que je veux dire, c'est que maintenant, est-ce qu'elle est représentative? J'écoute ce qui vient d'être dit, elle ne l'est pas forcément. Elle ne l'est pas par essence, mais ce qu'on ne peut pas enlever à ce conseil, au-delà du fait qu'elle est l'assemblée des trois assemblées constitutionnelles la plus paritaire, ce qui est déjà un signe, la plus jeune, ce qui est un autre signe, c'est qu'elle tend quand même à vouloir coller le plus possible aux personnes qu'elle représente. Par exemple, nous avons le vice-président le plus jeune des trois assemblées, qui est un jeune issu du groupe jeune. Nous avons déjà un groupe jeune. Nous avons
du groupe jeune est issu de la JOC. Hein,
mais voilà, je n'osais pas le dire, mais voilà. Donc pour montrer qu'à un moment donné, on essaye de prendre appui sur des compétences. Avec un autre élément, c'est que les conseillers du CESE ont une activité professionnelle par ailleurs. On est deux jours au conseil, le reste du temps, nous sommes dans nos entreprises, dans nos syndicats. Est-ce qu'il y a une professionnalisation maintenant? La réponse est oui. Et je crois que ça a été justifié au préalable.
Mais est-ce que vous l'aviez constaté aussi à SOS Racisme, par exemple, quand vous présidiez cette association, cette professionnalisation? Est-ce que vous l'aviez vécu aussi au sein de cette association-là?
Oui, mais elle est nécessaire. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Quand vous devez gérer un pôle juridique qui s'occupe de l'accueil des victimes, qui va les accompagner dans un parcours juridique, on ne peut pas prendre appui uniquement sur du bénévolat, ce n'est pas possible. Quand on nous demande d'avoir une rigueur de gestion financière et administrative, on est bien obligé d'avoir des professionnels. Ceci étant dit, je ne veux quand même pas qu'on laisse croire aux auditeurs qu'aujourd'hui, il y aurait une trahison finalement de la part des représentants associatifs par rapport à ce que sont les gens. Bien au contraire, je crois que les associations, c'est en tout cas le domaine que je connais le mieux et que j'ai le plus pratiqué, les associations sont de l'énergie positive, sont de véritables machines qui enclenchent des dynamiques, parce que les associations, c'est pas uniquement d'ailleurs ces grandes associations dont on parle, c'est des associations de quartier, c'est des associations de citoyens dans des petits villages, et qui à un moment donné sont des cercles de discussion également, qui ne sont pas simplement des paliers ou des vecteurs de revendications, ils sont des cercles de discussion, et avec tout ce qu'on a vécu dans notre pays dans les derniers mois, je crois qu'ils sont des cercles de discussion aussi utiles pour être en capacité de résilience démocratique.
Voilà, le grain à moudre est aussi un cercle de discussion, Pascal Aubert.
Oui, moi je vais vous parler des associations. Bien évidemment qu'il y a plein d'associations, des micro-associations qui font vivre la vie démocratique. Moi, je suis très d'accord, je suis très content d'être d'accord avec Tocqueville, pour une fois que je suis bien entouré. Et puis en plus, ça fait malin de dire, comme disait Tocqueville. Mais je pense qu'effectivement, et c'est le constat qu'on fait dans le collectif Pouvoir d'agir, nous on constate que tout ce qui est institué, tout ce qui est grands réseaux, grandes organisations, et pour moi les corps intermédiaires, c'était plutôt les grands réseaux associatifs auxquels je pensais, qui, à côté des syndicats, des partis politiques, ont structuré pendant des décennies la vie politique, ont fait émerger des choses. Ceux-là, je confirme, ils n'ont plus de base, ils sont essoufflés et ils marchent de moins en moins bien. Par contre, ce qui est optimiste, enfin ce qui nous rend optimistes, c'est qu'il y a une myriade de micro-expériences qui sont portées, et entre autres par votre génération, par la génération des 25 ans, et je m'étais engagé à le faire. Je fais une dédicace à une assoce de jeunes de mon quartier qui s'appelle Tiekanou et qui a participé à une assemblée libre des jeunes Paris Sud il n'y a pas très longtemps, où le principe, c'est justement, on repart à la base, on repart des préoccupations des jeunes, en l'occurrence, tels qu'ils les expriment, et on fabrique de la mise en mouvement, de la mise en action. Moi, j'ai beaucoup d'espoir de ce côté-là, j'ai beaucoup peur que les cadres que j'ai connus, moi, toute ma vie militante, soient en train d'aller à la fin d'un cycle, soient en train de s'écrouler sur eux-mêmes, et que il faut repartir à la base pour refabriquer de la vitalité démocratique. Les Tiekanou.
Est-ce que c'est ça aussi la recomposition dont vous parliez tout à l'heure, Frédéric Savicky?
Alors,
c'est-à-dire passer peut-être par des initiatives plus modestes, plus localisées.
On peut dire que les grandes fédérations associatives dont on parle tout à l'heure, comme les syndicats d'ailleurs eux-mêmes ou les partis, pour beaucoup, ont commencé comme ça. C'est-à-dire que c'est bien cette idée de cycle, je pense, qui est importante à avoir en tête. Il n'y a pas un âge d'or, il n'y aurait pas un âge où, en quelque sorte, la vie associative, sociale et politique se serait figée. Je pense qu'on est à un moment effectivement critique, parce que quand on regarde le profil des dirigeants politiques, des porte-paroles et des élus, c'est des gens qui pour beaucoup viennent d'un monde ou étaient formés dans un monde, les années 60, 70, qui est en décalage avec ça. Et le problème, effectivement, c'est qu'ils continuent de fonctionner avec les mêmes, on pourrait dire, interlocuteurs. Et la difficulté pour tout ce fourmillement associatif qui est incontestable et qui peut d'ailleurs prendre des formes très sporadiques. Hein. C'est pas forcément des associations au sens classique de gens qui vont agir pendant des années, qui vont chercher à s'instituer, mais on voit bien que quand il y a des conflits, notamment dans les projets d'aménagement, les gens se mobilisent. Quand il y a des grands débats publics, il y a des tas de gens qui viennent, qui prennent la parole. Bon, voilà. Le problème, c'est évidemment, c'est que si ils n'arrivent pas, ces différents groupements, à malgré tout se donner une parole collective avec des porte-paroles et un minimum d'organisation, ils sont inaudibles. Non pas inaudibles, je dirais, par rapport à leur action de proximité, mais par rapport au relais qui fait que leur parole, c'est ce que vous disiez tout à l'heure très justement sur l'initiative que vous allez faire avec la JEUC, faire parler des jeunes chômeurs par exemple. Bon, il faut que, évidemment, ces paroles-là, ça ne dure pas qu'une seule fois. Il faut qu'en permanence, il y ait des gens qui remontent cette parole-là. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est que d'un côté, les vieilles structures, on pourrait dire, n'arrivent pas à connecter avec cette ébullition et que de l'autre côté, toutes ces initiatives locales, elles restent malgré tout très cloisonnées et ont du mal à acquérir, là, non pas une audience, mais une visibilité, effectivement, et à éventuellement pouvoir peser sur ce qu'on appelle l'agenda public, c'est-à-dire les priorités d'action des gouvernements locaux et nationaux.
Alors justement, sur la façon de peser sur l'agenda public, Rina Radja-Onari, donc présidente de la JEUC, vous évoquiez cette initiative à venir en 2017. Il vous arrive aussi donc de faire des recommandations sur des sujets qui concernent les jeunes. Est-ce que vous avez le sentiment que quand vous confiez ces recommandations au pouvoir public, disons pour faire simple, c'est des choses qui sont entendues ou bien et que vous allez peut-être retrouver, je ne sais pas, dans l'agenda ou dans certains projets de loi, ou bien est-ce que si vous êtes sollicité, c'est pour faire des rapports dont on dit que beaucoup finissent à être oubliés dans une armoire?
Oui, je pense qu'il faut voir les choses de deux manières. On a plutôt tendance à dire que aujourd'hui, les corps intermédiaires ne sont plus entendus. Alors, par expérience, effectivement, à la JEUC, on a mené divers combats. Hein. Et faut pas oublier que parce que la JEUC s'est mobilisée, par exemple, en 1955, que du coup, on a créé les foyers des jeunes travailleurs. Ou encore, parce que la JEUC s'est mobilisée vers les années 30, que du coup, on a créé le Pôle emploi plus tard.
Bon, donc, et en 2016
fait, et en 2016, effectivement, la JEUC, elle est toujours sollicitée. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement nous sollicite sur les sujets sur lesquels nous travaillons, notamment sur l'accès à l'autonomie des jeunes, sur l'accès au travail des jeunes.
Il y a eu justement une loi travail. Est-ce que vous avez reconnu des éléments, des recommandations que vous avez pu faire à la JEUC dans la loi travail telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement?
Alors, la JEUC reste toujours contre cette loi, hein, bien sûr, mais évidemment, on peut voir que par la mobilisation massive des jeunes dans les rues, et notamment nous, à la JEUC, on a mobilisé des jeunes qui sont issus des quartiers populaires. C'est quand même très nouveau, ça. Effectivement, il y a des choses qui ont payé. Il y a eu l'annonce des 11 mesures jeunesse, par exemple, qui ont été faites au mois d'avril, où on parlait de la généralisation de la garantie jeune, ou encore la garantie locative universelle pour les jeunes. Donc je pense que oui, effectivement, il y a de temps en temps des revendications qui sont entendues, mais il ne faut pas non plus être dupe. Il y a des choses qui passent à la trappe. Ça fait plusieurs années, par exemple, qu'on se bat pour que les jeunes, dès le collège, dès le troisième, puissent être formés aux bases du droit du travail, pour qu'ils soient armés pour aller dans le monde du travail et puissent se défendre. Eh bien, ça fait plusieurs années qu'on le revendique auprès des ministères. Ça traîne malgré des grands mouvements en JEUC, malgré des liens avec des sénateurs, des députés. Enfin, voilà, donc...
Cindy Léoni, vous nous disiez tout à l'heure que ce qui changeait aujourd'hui peut-être au CESE, c'était qu'il y avait de plus en plus de saisines gouvernementales. Donc on imagine que si des ministères saisissent le CESE, c'est parce que derrière, ils ont envie de faire quelque chose de ces recommandations. Est-ce que comme Rina Radja-Onari, vous diriez que de temps en temps, ça fonctionne, mais seulement de temps en temps, ce qui est peut-être déjà pas si mal?
Je crois que de temps en temps, ça fonctionne et surtout, on a pu voir dans le passé que lorsqu'on n'essayer de complètement contourner les corps intermédiaires, ce qui était sûr, c'est que ça fonctionnait pas. Et je crois que c'est quand même quelque chose à souligner. Dernièrement, on rendait un avis sur l'agroécologie en présence du ministre Stéphane Le Foll. Je pense que c'est un lieu, effectivement, où cette discussion ne peut pas aboutir si elle n'est pas issue de cette configuration-là dans sa structuration, dans les membres qui composent cette assemblée. Et puis, sur les grands réseaux associatifs et comment il peut y avoir une articulation entre la force de proposition émise par le corps intermédiaire et le pouvoir public, j'ai en tête un exemple qui est le service civique. On a quand même une association qui s'appelle Unicité, qui, par la voix de sa présidente Marie Trélucane, a fait un travail extraordinaire, qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que le service civique, c'est quelque chose de normal, d'inscrit dans le paysage français, alors que ça a été une avancée considérable en matière de citoyenneté, en matière d'association des jeunes avec justement des engagements dans le social et dans l'associatif de manière générale. Donc c'est pour ça que, encore une fois, à chaque fois qu'on a voulu contourner ces corps intermédiaires, on est arrivé face à des conflits, on est arrivé face à des oppositions qui n'ont jamais été bonnes pour le collectif et pour l'ambition commune d'aller ensemble bâtir finalement une société forte qui a envie de plus d'égalité, de plus de fraternité et de plus de liberté.
Vous dites à chaque fois parce qu'il n'y avait plus du coup des relais pour justement aller faire la pédagogie des décisions politiques, c'est-à-dire c'est aussi une des utilités des corps intermédiaires, c'est pas seulement se faire remonter l'information de la base, mais c'est aussi peut-être de légitimer, en tout cas d'aider à légitimer des décisions politiques.
Elles sont des courroies de transmission et quand on regarde d'ailleurs la façon dont parfois des appels à projets sont lancés, dont se saisissent les associations, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un aller-retour qui peut se créer entre justement le travail associatif de terrain et les volontés du pouvoir public en matière justement d'avancer sur l'égalité homme-femme notamment.
Pascal Aubert.
Oui, moi le collectif, nous on a fait le choix on n'épuise pas la question, mais de se tourner plutôt en partant de ce constat. Moi je continue à penser que ces corps intermédiaires jouent plus leur rôle et font plus leur boulot, en tout cas en direction des milieux populaires, en direction des, et sans être misérabiliste, des 50% qui sont par ailleurs ceux qui ne votent plus. Qui sont ceux qui foutent la trouille à tout le monde, parce que c'est eux qui ont voté pour Trump aux États-Unis, c'est eux qui votent pour Le Pen en France, pour les quelques-uns qui votent. Et moi, il me semble que là, nous, on s'est concentré là-dessus. Et on fait porter nos efforts à essayer de rassembler. Donc, je vous invite, il est encore temps de s'inscrire, vendredi et samedi prochain, donc les 2 et 3, aux rencontres de musculation citoyenne qui ont lieu à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Nous, on met la focale sur rassembler les méthodes, les manières de faire qui permettent au milieu populaire de se remettre en mouvement, en s'organisant pour se battre sur leurs mots d'ordre, sur leurs intérêts, sur les questions qui les préoccupent vraiment.
Et s'il y a des politiques qui viennent et qui vous disent, vos initiatives, elles m'intéressent et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, qu'on essaie peut-être de les étendre un petit peu à d'autres quartiers, d'autres municipalités, vous leur répondez quoi aujourd'hui? Vous leur dites, laissez-nous travailler tranquille et parce qu'on ne croit plus en vous.
Moi, je rêve que des institutions soutiennent ces démarches-là pour elles-mêmes. C'est-à-dire non pas dans le cadre de délégations de services publics où on demande effectivement aux forces associatives, aux bénévolats, d'aller mettre en œuvre des politiques publiques qui ont été pensées ailleurs que dans les quartiers et pour les personnes auxquelles elles sont destinées. Donc moi, si une institution, si une collectivité locale dit « Ok, une assemblée libre des jeunes pour elle-même », et on ne sait pas ce qui va en sortir, et peut-être que ça va nous mettre le bazar, eh ben, on aide à ce que ça puisse se réaliser, on dit banco, et on est disposé, nous, à venir mettre de l'énergie militante pour aider les gens à s'organiser. C'est ça le mot d'ordre. Il faut s'organiser pour revitaliser la base.
Rena Rajaonari.
Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, il faut s'organiser. Et moi, ce que j'ai envie de redire encore une fois, c'est que non, ce n'est pas les corps intermédiaires qui ont déserté les quartiers populaires. Je pense qu'on est encore plusieurs à y agir. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un vrai lieu de débat, un vrai lieu de libération de parole des personnes qui sont dans ces quartiers-là. Et c'est ça qui manque. Donc effectivement, à la JOC, nous, on développe des groupes de jeunes, ce qu'on appelle des équipes de révision de vie. En fait, on permet à chacun justement de venir avec ce qu'il est, dire un petit peu ce qu'il vit et de dénoncer un peu les choses avant de faire des propositions. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. Par contre, il y a aussi le manque de confiance auprès de ces personnes des quartiers populaires. Aujourd'hui, on ne leur dit pas assez qu'ils sont capables de porter des vraies propositions. Donc pour cela, je pense qu'il faut développer les outils qui permettent d'informer en tout cas, qui permettent aussi de poser justement ces indignations et enfin d'agir. Et je pense que nos politiques ne devront pas avoir peur non plus de nous laisser cette place-là, cette parole-là, quoi. Aujourd'hui, les politiques ne viennent, enfin les jeunes des quartiers populaires nous disent, les politiques ne viennent nous voir que lorsqu'il y a les élections. Eh bien, arrêtons ça, arrêtons, parce que les gens sont prêts à les accueillir, ils sont prêts à discuter avec eux pour être force de proposition.
Alors les politiques, justement, en ce moment, ils sont en pleine campagne électorale dans la perspective de la présidentielle et des législatives, Frédéric Savicky. On entend alors des choses, par exemple, sur la nécessité aujourd'hui de valoriser les accords d'entreprise, c'est-à-dire d'avoir une relation qui se passe pour certains candidats des syndicats, ce soit directement entre le dirigeant d'entreprise et puis les salariés. On nous reparle de référendum sur des questions de société. Et puis il y a aussi cet exercice des primaires. Est-ce que tout ça, ça ne participe pas d'une volonté aussi, d'en haut, je ne sais pas d'où d'ailleurs, de contourner ces corps intermédiaires?
Vous avez, enfin, je ne sais pas s'il y a une volonté, on va dire, de l'ordre du calcul hein, ou du plan stratégique. Je pense que face au fait que les politiques sentent qu'ils n'ont plus suffisamment de relais, ils bricolent avec les solutions, j'allais dire, qui sont classiques, qu'ils ont sous la main. Le référendum, c'est très vieux. C'est-à-dire, c'est l'idée de laisser les gens se débrouiller entre eux. C'est le modèle libéral. C'est comme ça que pensaient les républicains dans les années 1880-90. C'est-à-dire qu'il fallait développer, il fallait créer une loi sur les syndicats pour permettre effectivement aux syndicats de négocier, mais là dans les entreprises, hein, on se méfiait des confédérations ou des fédérations patronales, et aussi bien que des fédérations d'ailleurs de salariés, il fallait se débrouiller. Bon, c'est des vieilles recettes, si vous voulez, qui dans les situations un petit peu de critique ou de crise sur lesquelles on n'arrive pas à inventer des dispositifs participatifs nouveaux. Et pourtant, là je ne suis pas un spécialiste, mon ami et collègue Loïc Blondieu pourrait être bien mieux que moi en parler, mais enfin, il y a des tas d'outils, si vous voulez, c'est pas des outils qui ont été inventés par des chercheurs, c'est des outils qui ont été inventés dans différentes sociétés, dans différents pays, dans différentes associations qui existent, qui permettent effectivement de inventer autre chose que ou la loi de 1901, si vous voulez, ou le référendum, hein, des formes de consultation, des formes de d'action, on pourrait dire temporaire, des sondages citoyens, des jurys délibératif, voilà, il faut. Et alors, le problème évidemment, c'est que ça touche au monopole que les partis et les élus ont sur la représentation politique. On n'en sort pas. Bon, ça. Et permettez-moi aussi quand même de dire une chose justement par rapport à l'effondrement des corps intermédiaires. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur le fait que les corps intermédiaires qui représentent les milieux populaires sont alors effectivement en situation d'atonie et d'affaiblissement terrible. En revanche, les corps intermédiaires qui portent la parole des puissants et notamment des intérêts économiques se portent très bien. Il suffit de regarder, je ne prends pas ici pour dire une position partisane, regardons quels sont les groupes d'intérêts qui sont entendus au sein du Parlement aussi bien par la gauche que par la droite. Discuter, il y a eu des études très précises qui ont été faites sur le travail parlementaire, sur les lois et sur la façon dont les députés s'informent, c'est d'abord effectivement avec les représentants des intérêts économiques à Bruxelles aussi bien qu'à Paris que les élus au quotidien, y compris localement, ont des relations très très fréquentes. En revanche, avec effectivement toutes les associations dont on parlait, c'est sporadique et comme vous le disiez, c'est en général au moment d'une élection municipale ou d'une élection législative qu'on découvre la nécessité d'avoir des liens. Voilà. Donc le problème, il est là et effectivement, par leur comportement, partis et élus contribuent à leur propre malheur.
Signé Léonie.
Oui, je pense que le résultat est le suivant. Les corps intermédiaires sont indispensables, ils sont insatisfaisants. Et pour essayer de combler les manques des corps intermédiaires, il reste qu'une possibilité. Il faut s'y engager, il faut se mobiliser, il faut avancer pour essayer justement d'animer ces réseaux, de revenir sur de l'action de terrain, de venir porter de la parole et de se saisir des outils. Je reviens très rapidement sur le fait que pour moi, il n'y a pas de disparition des corps intermédiaires, il y a transformation, il y a mutation. émissions et regarder ce qui se passe d'un point de vue numérique, là où d'ailleurs généralement les adversaires de la démocratie se mobilisent. Ce serait intéressant parce que là il y a aussi un rapport de force à engager et je crois que sur la toile le combat citoyen doit continuer.
Donc il faut se mobiliser. Alors on a compris Pascal Aubert, pouvoir d'agir, c'est vendredi et samedi à Saint-Denis pour ces journées de musculation citoyenne. Est-ce qu'il y a des rendez-vous mobilisateurs comme celui-là, Rina Rajaonari, s'agissant de la JOC?
Bien sûr, alors je vous parlais tout à l'heure du Rassemblement National, parce que effectivement c'est quand même un des grands moments en France où on réunit autant de jeunes qui sont privés d'emploi. Donc oui, effectivement.
Et le prochain c'est?
Donc c'est le 15 avril 2017, c'est à Paris et 25h, donc Porte de la Villette, hein, c'est un samedi, une semaine avant les élections, donc c'est vraiment le moment en tant que jeune aujourd'hui, surtout des jeunes des quartiers populaires, de prendre la parole, d'être force de proposition et d'être entendu par nos politiques qui seront là.
Frédéric Sadiki, d'un mot.
Une information scientifique, le 13 et 14 décembre à Lille, va se tenir un colloque sur le malheur militant. Hein. Alors c'est la face moins, pourrait dire, rose, mais c'est aussi quelque chose effectivement qui est important d'avoir, de prendre en compte. Donc j'invite tous ceux que ça intéresse, qui sont à Lille, d'y aller.
C'était notre rubrique agenda du soir. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du grain à moudre. Demain, on poursuit notre semaine spéciale avec la question suivante, semaine spéciale, je le rappelle, avec le journal La Croix. La littérature s'est-elle parlé aux électeurs du Front National? Tout de suite, c'est Ping Pong avec Mathilde Serrel et Martin Kenéen. Bonsoir, enfin tout de suite, c'est Ping Pong, c'est le sommaire de Ping Pong.
Et c'est déjà pas mal, bonsoir Hervé.
C'est déjà beaucoup.
Bonsoir Hervé. Les mauvaises filles d'hier sont-elles les filles modernes d'aujourd'hui et de demain? C'est une question qui traverse le temps du Moyen-Âge à nos jours avec nos invités.
Qui sont déjà un homme, un mauvais homme, un gentilhomme, on va le découvrir. Pierre Fournier, chartiste, conservateur général du patrimoine, co-commissaire de l'exposition Présumé coupable, qui vient avec une de ses présumés coupables. Enchaînée à ses côtés, Julie Doyon, historienne, qui se mêle de cette exposition aux Archives nationales à Paris. Et puis, dans la compagnie de Véronique Blanchard, qui nous propose à la fois une exposition, elle aussi, Mauvaise fille, et un beau livre aux éditions textuelles.